24 heures à Paris, 2 heures en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, cela fait 2 mois qu'Israël bloque l'aide humanitaire aux frontières de la bande de Gaza. La Cour internationale de justice a clôturé 5 jours d'audience. Ils doivent rendre un avis juridique sur les obligations légales d'Israël. Jour d'élection à Singapour, 2,7 millions de Singapouriens sont appelés aux urnes pour les élections parlementaires. Le Parti d'Action Populaire au pouvoir est assuré de prolonger son règne. Dans ce journal également, TikTok, condamné à une amende de 530 millions d'euros par l'Union européenne. En cause, le réseau social chinois n'a pas garanti une protection suffisante des données personnelles des Européens en Chine. Et puis en France, une semaine après le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard, l'heure est au recueillement. L'aide humanitaire toujours bloquée à Gaza, cela fait 2 mois jour pour jour. En conséquence, les juges de la Cour internationale de justice ont entamé vendredi soir leur délibéré à La Haye. Ils doivent rendre un avis juridique sur les obligations légales d'Israël vis-à-vis de l'ONU et des organisations qui fournissent l'aide humanitaire à Gaza. Et Stéphanie Maupa, pour ces audiences, la parole était à l'Union africaine.
C'est l'Union africaine qui a refermé cette longue semaine de plaidoirie. Pour faire valoir ses arguments, la conseillère juridique de l'organisation continentale, la professeure Hajer Geldish, a notamment évoqué devant les juges le drame de Gaza depuis le blocage de l'aide par Israël le 2 mars.
Quels seraient les mots justes pour qualifier le drame humain d'une population entière qui, depuis la fin du cessez-le-feu, c'est-à-dire plus de 60 jours maintenant, est privé d'eau, de nourriture, de carburant, d'aide médicale, de vaccins pour les enfants. Surtout que 3000 camions chargés d'aide humanitaire sont bloqués par Israël aux portes de Gaza.
Comme l'ont dit de nombreux pays, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, les Comores ou encore la Namibie, l'organisation continentale estime qu'Israël a l'obligation de laisser passer l'aide humanitaire, de ne pas entraver le travail de l'UNRWA et des autres organisations. L'Union africaine a aussi demandé aux juges de rendre leur décision au plus vite. Stéphanie Maupa, La Haye, RFI.
Et pour outrepasser le blocus humanitaire, l'ONG de la flottille de la Liberté a voulu passer par la mer. Mais le navire a été attaqué par des drones au large de Malte. Les militants ont dit soupçonner Israël d'être à l'origine de cette attaque qui n'a pas fait de blessés. Aucune réaction de l'État hébreu pour le moment, qui a tué ce vendredi au moins 42 Palestiniens ce vendredi, selon la défense civile palestinienne. Israël, qui a également visé la Syrie, plus de 20 frappes ont été recensées dans la nuit de vendredi à samedi, les plus violentes cette année, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Elles ont visé des sites militaires syriens. L'agence officielle syrienne Sana a annoncé qu'un civil a été tué. Une frappe a également touché les alentours du palais présidentiel de Damas. Avertissement de l'État hébreu contre toute atteinte à la minorité druze de Syrie. Et ce, après plusieurs jours de violences confessionnelles entre des groupes armés liés au pouvoir syrien et des combattants druzes. Au moins 100 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Direction Singapour, la cité insulaire organise ce samedi des élections parlementaires. 2,7 millions de Singapouriens sont appelés aux urnes pour élire 97 députés dans 33 circonscriptions. Peu de suspense pour ce scrutin où le Parti d'Action Populaire au pouvoir est assuré de prolonger son règne ininterrompu depuis près de 75 ans. Alors comment s'explique cette longévité au pouvoir? On écoute Jean-Louis Margolin, historien et spécialiste de Singapour.
Un paysage électoral remarquablement stable, sans doute un des plus stables à l'échelle mondiale, puisque en fait c'est le même parti qui invariablement gagne toutes les élections, les unes à la suite des autres, depuis 1959. Le fait que le système, au fond, ne connaisse jamais vraiment des crises graves, le fait qu'il y ait quand même des possibilités de promotion individuelle pour une nette majorité de la population, depuis le début des années 60, il n'y a quasiment pas de chômage à Singapour, sinon éventuellement pour des périodes extrêmement courtes, et puis une politique éducative extrêmement inclusive, la grande majorité de la population peut se soigner, au fond, le système fonctionne et les gens ne voient que trop bien, quand ils font la comparaison avec les pays voisins, ce qu'ils auraient éventuellement à perdre au fait que le Parti d'Action Populaire soit chassé du pouvoir. Et ça leur fait peur. Et l'opposition elle-même en est tellement consciente qu'elle s'arrange en quelque sorte pour ne pas pouvoir gagner les élections, ce qui est quand même assez original.
Jean-Louis Margolin, historien et spécialiste de Singapour au micro de Yelena Tomic. Les bureaux de vote ont également ouvert en Australie depuis quelques heures. Élections législatives législatives. Ce samedi, le scrutin décidera de l'avenir du travailliste Anthony Albanese à la tête du gouvernement depuis 3 ans. La campagne a notamment été marquée par le pouvoir d'achat, l'environnement et les droits de douane américains. L'addition est salée pour TikTok. Le réseau social chinois écope d'une amende de 530 millions d'euros par l'Union européenne. En cause, la plateforme de vidéos courtes n'a pas garanti une protection suffisante des données personnelles des Européens en Chine, des données dont les autorités chinoises pourraient avoir accès. Agnieszka Kumor.
Le chiffre donne le tournis. 530 millions d'euros, c'est la deuxième plus grosse amende jamais infligée par le régulateur irlandais, après 1,2 milliard d'euros écopés par Meta en 2023, toujours pour le transfert des données. Selon le communiqué, TikTok n'est pas parvenu à démontrer que les données personnelles des Européens, accessibles à distance depuis la Chine, étaient protégées là-bas de même manière qu'en Europe. Le risque existe en effet que les autorités chinoise puisse y avoir accès. La plateforme qui revendique 1,5 milliard d'utilisateurs appartient à ByteDance, un groupe chinois. Mais depuis plusieurs années, l'entreprise est dans le viseur des gouvernements occidentaux. Ses liens avec Pékin inquiètent. Les données personnelles des utilisateurs pouvant facilement être utilisées à des fins d'espionnage ou de propagande. En 2024, le Congrès américain a ainsi obligé ByteDance à céder le contrôle de sa plateforme sur le sol américain sous peine d'interdiction aux États-Unis.
Et TikTok reconnaît avoir hébergé en Chine des données européennes mais annonce vouloir faire appel. Priorité austérité, le président américain Donald Trump a présenté un projet de budget pour 2026. Au programme, un projet ultra-conservateur qui taille massivement dans les aides internationales ou les subventions jugées woke. Et au contraire, plus d'investissements dans la défense ainsi que la sécurité intérieure. La Maison-Blanche a également annoncé un défilé militaire le 14 juin prochain. Une date qui n'est pas choisie au hasard car il s'agit de l'anniversaire de Donald Trump. Lui promet la plus grande transformation de l'économie canadienne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, va rencontrer Donald Trump ce mardi. Première rencontre avec son homologue américain depuis sa victoire aux élections législatives ce lundi. Une visite dans un contexte tendu car les deux alliés historiques sont en froid face aux droits de douane et aux menaces d'annexion du président américain. En France, le meurtrier d'Aboubacar Cissé a agi dans un contexte isolé, guidé par une envie obsessionnelle de tuer. C'est ce qu'indique ce vendredi la procureure du parquet de Nîmes. Le 25 avril dernier, le jeune Malien de 22 ans a été tué de plusieurs dizaines de coups de couteau dans une mosquée du Gard, dans le sud de la France. Une semaine après ce meurtre, des centaines de fidèles se sont de nouveau rassemblés devant la mosquée de la Grande Combe. Moment de recueillement également à Paris où la communauté musulmane est partagée entre tristesse et indignation. Reportage d'Aram Mbeng.
À la sortie de la prière de ce vendredi à la mosquée de Javel dans le 15e arrondissement de Paris, Aminata, une fidèle de 36 ans, exprime sa tristesse et sa peur après l'assassinat d'Aboubacar Cissé.
On est meurtri, on est triste, on a perdu un frère dans des circonstances terribles, horribles, qui font très peur parce qu'on laisse la haine s'installer dans ce pays, la cruauté s'installer et on voit que c'est tout un système qui participe, que ce soit le gouvernement, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la jeunesse maintenant aujourd'hui, parce que ça commence à faire peur cette jeunesse-là.
Outre la peur de la violence grandissante chez les jeunes, Aminata s'est dit choquée par la réaction tardive des autorités politiques, notamment celle du ministre de l'Intérieur, qui a mis plus de 48 heures avant de se rendre sur place.
Ah, le mot choc, il est trop petit pour dire à quel point il y a eu une absence totale de l'État par rapport à cet événement-là. Donc les raisons ont ouvert la porte qui ont fait que l'État à ce moment-là a agi. Mais c'est vraiment triste d'arriver à ce point-là parce que ça montre la considération que l'État a pour la religion musulmane.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, recevra lundi prochain la famille d'Aboubacar Cissé.
Et puis toujours en France, les députés ont approuvé en commission la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Le texte a été soutenu par la majorité des représentants de la gauche et des groupes macronistes. Le Rassemblement National et les Républicains s'y sont opposés. Cette proposition de loi permettrait aux malades souffrant d'une affection grave et incurable de recevoir ou de s'administrer une substance létale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.